Radio Okapi.
Le journal, Jocelyne Moussa-Opondé.
Un véhicule du HCR utilisé par la Commission nationale des réfugiés saisi hier à Goma avec des mineurs et des fraudes à bord. Le ministre provincial de Mines au Nord Kivu déplore l'implication des services étatiques dans cette pratique. La loi électorale jugée recevable au Sénat a bloqué le vote de cette loi implique le report des élections, a dit le ministre de l'Intérieur dans sa réplique hier à la Chambre haute du Parlement. Germain Kambinga, président de la plateforme Le Centre, est notre invité ce matin. Ses regroupements politiques appellent à la tenue d'une table ronde pour lever tout équivoque autour du projet de loi électorale. Bonjour à tous. Commençons au Nord Kivu. Un véhicule du Haut Commissariat pour les réfugiés prêté à la Commission nationale pour les réfugiés a été saisi hier à l'entrée de Goma avec à son bord des minerais de fraude. Le ministre provincial de Mines, qui déplore l'implication de services de l'État dans la fraude minière, indique que les auteurs répondront individuellement de leurs actes devant la justice. Rosalie Zawadi pour les détails.
Les conducteurs de ces véhicules de marque Land Cruiser avec mention propriété d'ICR a refusé le contrôle sur un poste à l'entrée de la ville, car en dessous des feuilles de manioc et des régimes de bananes en provenance de Massissi étaient dissimulés des colis de coltan. Le ministre provincial des Mines félicite les services de lutte contre la fraude minière. Anselme Kitakia regrette que les services de l'État soient impliqués dans la fraude.
Tout récemment, c'était le cas de véhicules du parquet de grande instance qui a été, n'est-ce pas, utilisé pour la fraude minière. On déplore encore ce cas ici d'un véhicule de la CNR qui est également utilisé pour la fraude minière. Les responsables des services n'engagent pas leurs services lorsqu'ils posent des actions frauduleuses. Ils engagent leurs responsabilités individuelles et ils seront poursuivis comme individus et ils vont répondre de la loi.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, indique dans un communiqué qu'aucun de ses employés n'était impliqué dans cette opération de fraude. Il explique que les partenaires qui bénéficient de l'appui logistique de cette agence onusienne gèrent les véhicules sous leur propre responsabilité avec leur propre personnel. D'autres fraudeurs présentés à la presse par la même occasion dissimulaient les coltans dans des bidons de lait et de la boisson locale. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Ajoutons qu'au total, 12 colis contenant du coltan ont été saisis hier à Goma dans différentes opérations des agents commis à la lutte contre la fraude minière. Par ailleurs, sachez que deux autres véhicules appartenant à une ONG internationale ont été interceptés toujours hier mardi par des militaires basés à Moubambiro. C'est à 25 km à l'ouest de Goma. À l'intérieur d'un des véhicules s'est trouvé des colis contenant du coltan en provenance de Massissi. Les deux véhicules ont été saisis et acheminés à la direction générale de migration à Goma. La Commission nationale de lutte contre la fraude annonce l'ouverture d'une enquête à ces sujets. Nous y reviendrons. À Uvira, au sud Kivu, la Direction générale des douanes et accises, succursale de la frontière de Kavivira, a renforcé les mesures de contrôle des biens dans les trafics transfrontaliers entre la RDC et le Burundi voisin. Une réunion d'ordre opérationnel s'est tenue à cet effet hier sur place à la frontière de Kavivira. Plusieurs services de l'État y ont pris part, notamment les services d'hygiène de l'Office congolais de contrôle, de la brigade anti-fraude, de migration et autres services connexes dont la police des frontières. D'après la DGDA, ces mesures concerne principalement les produits brassicoles frappés de restrictions à l'importation. Fiston Goma.
Les services frontaliers devront décourager les fraudeurs clandestins, déceler toutes les voies qu'ils empruntent, entre autres Kaoro-Oro, le marais de Nyangara, la brousse de Chamvubu et le lac Tanganyika. Le chef de la succursale de la DGDA insiste sur les fouilles systématiques sur tous les véhicules. Ces mesures font suite à l'interdiction formelle par le ministère du Commerce extérieur d'importer les produits brassicoles pour une durée de 6 mois. Depuis l'application de l'arrêté en novembre dernier à Kavivira, 1220 casiers de bière malt et de boissons sucrées confondues en provenance du Burundi ont été saisis. Une autre quantité importante est stockée sur place à la frontière de Kavivira. Cependant, l'inspecteur chef des bureaux de la DGDA Kavivira s'est dit très préoccupé. Aucune indication n'ayant été donnée dans l'arrêté, Felilo Chikamanji dit attendre de sa hiérarchie une orientation sur le traitement à appliquer sur les saisies conservatoires de ces produits brassicoles. Pendant ce temps, les victimes prennent leur mal en patience. Certains commerçants rencontrés à la frontière ce mardi matin dénoncent dénonce la consommation et la revente de ces produits saisis. Il déplore que le même ministère du Commerce extérieur ait favorisé un commerçant à importer 9000 casiers de bière du Burundi par la frontière de Vugizo à Kiliba. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Retour à Goma, où Médecins sans frontières annonce la réduction de l'effectif de son staff dans certains de ses projets au Nord Kivu. MSF demande par ailleurs le respect de sa mission et de son personnel dans cette province. C'est l'essentiel du communiqué de presse publié hier à Goma. C'est en réaction aux incidents sécuritaires récurrents contre son personnel. La semaine dernière, deux agents de cette organisation ont été enlevés à Bambou, dans le Rutshuru, avant d'être libérés. C'est la troisième fois en moins de deux semaines que les structures et personnels de MSF sont victimes d'incidents graves, et déplore Anna Alford, chef de mission de MSF au Nord Kivu. Denis Loukesso nous en parle.
Les équipes de MSF ont été victimes d'une nouvelle attaque par des hommes armés qui ont procédé à l'enlèvement de deux membres de l'organisation à Bambou en territoire de Rutshuru. C'était le 5 décembre dernier. Cette attaque est intervenue au lendemain d'une incursion d'hommes armés dans la base de MSF à Mouesso qui ont violenté et menacé les personnels avant d'importer de l'argent et des équipements. L'organisation avait également connu un braquage d'une de ses ambulances près de Rubaya, toujours dans le Massissi, quelques jours plus tôt. L'organisation s'inquiète d'être la cible d'hommes armés. Suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région, MSF a dû réduire l'effectif de son staff dans certains de ses projets. Tous les acteurs présents dans la région et la communauté doivent peser de tout leur poids afin de prévenir ces attaques et trouver les responsables, appelle Anna Alford. Les équipes de MSF offrent des soins de santé primaires et secondaires gratuits aux hôpitaux et centres de santé dans la ville de Goma et dans les territoires de Walikale, Masisi et Rutshuru. Goma, Denis Luquet sur Radio Okapi.
Je l'ai dit en titre, le Sénat a déclaré recevable hier en plénière le projet de loi électorale très controversé dont sa réplique aux multiples demandes des sénateurs de rejeter ou geler ces textes. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a affirmé que ne pas examiner ces textes signifie approuver un nouveau report des élections. Pour Emmanuel Chadari, la disposition portant sur le seuil de représentativité nationale est l'œuvre de l'Assemblée nationale et non du gouvernement. La Chambre haute du Parlement devrait, d'après lui, s'assumer sans toute responsabilité pour rendre ces textes potables. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Le gouvernement a parlé du seuil à 3%, pas au niveau national, au niveau de la circonscription. Et l'Assemblée nationale a adopté ce texte et ils ont mis 1% au niveau national. La balle est dans votre camp. Il ne faudrait pas que la CENI dise qu'il n'y a pas d'élection parce que ce n'est pas la loi. Nous ne devons pas continuer à flouer continuellement le peuple en reportant encore les élections déjà prévues par la CENI en décembre 2018 en bloquant une loi qui est si simple. Si vous trouvez qu'il y a des dispositions prévues par la Chambre sœur et qui énervent les honorables sénateurs, il faut les enlever en commission. Revoir les taux de caution à la baisse, comme vous l'avez proposé ici. Faites-le. Comment on peut aller aux élections avec une machine à frauder? Il faut dire ça aux députés et non pas renvoyer au mois de mars. C'est dangereux. Si le seuil n'est pas intéressant, discutez avec eux. Et après ça, je parle, le reste doit faire l'objet des contacts politiques d'une chambre à l'autre.
Au cours de la même plénière, le Sénat a aussi adopté la loi organique sur le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Direction Mbandaka, où l'ONG Avocats sans frontières et ses partenaires poursuivent la campagne de sensibilisation de la population aux droits et libertés publiques en période électorale. Hier, c'était autour des élèves finalistes de l'Institut Bakusu, thème de la communication, droits de l'homme et les libertés publiques. Il a été développé par le coordonnateur provincial de la Commission nationale aux droits de l'homme. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Parlant de la motivation même de la campagne, la coordonnatrice de la FEGICO Équateur a affirmé que la période électorale en vue se veut cruciale, d'où la nécessité de préparer ces nouveaux majeurs à mieux connaître et user de leurs droits et libertés constitutionnelles. Mary Chembo.
Le choix de ces sujets, c'est aider les élèves à exercer leurs droits, leurs libertés pendant cette période cruciale dite électorale. Nous attendons de ces élèves de se comporter en citoyens responsables. C'est-à-dire, s'ils veulent manifester leur liberté, qu'ils le fassent dans la légalité.
Pour Dominique Kamwanga, d'Avocats sans frontières, certes, la manifestation est un droit, mais elle ne vise que le bien de la nation, a-t-il dit.
Vous êtes encore jeune, ce qu'on peut vous dire de plus important, c'est que on peut venir vous influencer pour aller manifester. Ne suivez pas tel camp ou la majorité, non. Parce que c'est l'opposition, non. Suivez votre conscience privé, ce qui est bien pour la nation.
Les organisateurs n'ont pas prêché dans le désert. L'élève Niebeng Mwamba, parmi le public, s'est réjouie de ce qu'elle a pu retenir.
J'ai appris que j'ai un droit d'expression, j'ai appris que j'ai le droit de circulation, de manifestation, mais en respectant les règles.
Entre-temps, Avocats sans frontières et ses partenaires prévoient encore la sensibilisation d'autres couches socioprofessionnelles. Mbandaka, Porsche Malengue, la Radio Okapi.
Le Premier ministre Bruno Tshibala a violé intentionnellement l'article 97 de la Constitution et devra comparaître devant la Cour constitutionnelle pour haute trahison. La déclaration est du coordonnateur de la nouvelle dynamique de l'opposition. Les députés Toussaint Alonga reprochent à Bruno Tshibala d'assumer depuis le week-end dernier concomitamment les fonctions de président d'un parti politique et de Premier ministre, deux fonctions incompatibles conformément à la Constitution. Toussaint Alonga est au micro de Michel Kifindang.
Les fonctions de Premier ministre sont incompatibles par rapport à la responsabilité d'un parti politique. Le voilà lors de son congrès. Il est désigné publiquement président de l'IDPS en violation de l'article 97. Cette violation est intentionnelle. En ma qualité de député national, je vais devoir initier une procédure pour haute trahison contre le Premier ministre de la République parce que nous ne pouvons pas finalement continuer à voir ces gens continuer à violer la Constitution. Ça, c'est impossible, inacceptable. Même le président Kabila n'a jamais été chef d'un parti. Lui, au moins, il a compris. Mais le Premier ministre n'a rien compris. Comme il n'a rien compris, il doit être déféré devant les instances judiciaires. Nous avons les causes sonores, nous avons les images, nous allons les déférer devant la Cour constitutionnelle pour haute trahison.
Au chapitre environnement, sachez qu'il se tient depuis hier mardi à Paris le sommet climat de haut niveau pour répondre à l'urgence écologique. Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement prennent part à cette rencontre. La délégation de la RDC est conduite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Cette réunion intervient un mois après la 23e conférence sur les climats COP23 tenue à Bonn en Allemagne. Suite au recul de l'administration Trump quant à l'application de l'accord de Paris, la France décide de reprendre le bâton de commandement pour Emmanuel Macron. Il est temps de passer à l'action. C'est ce qui justifie le sommet de Paris. Plus de détails avec vous, Nounou Ngoy.
Le 12 décembre, un jour mémorable pour la France. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que l'accord historique de Paris avait été adopté. Emmanuel Macron, président français, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et Jim Yong Kim, président du groupe de la Banque mondiale, ont réuni autour d'eux des chefs d'État et des gouvernements, des leaders internationaux de tous les secteurs confondus venus du monde entier. Objectif, trouver de nouveaux moyens afin de financer l'adaptation de nos modes de vie face aux effets néfastes de changement climatique. D'après les 3 co-organisateurs de ce sommet, tous les rapports sur les changements climatiques sont alarmants. Il faut passer à l'action et agir. Emmanuel Macron décide qu'à Paris, une charte sera signée avec les entreprises publiques et un montant de 600 milliards d'euros sera disponibilisé pour les inciter à investir dans le vert. Le secrétaire général des Nations Unies invite quant à lui les pays en développement de créer des projets susceptibles de bénéficier des financements verts. Le secteur privé doit également s'impliquer. La Banque mondiale promet d'intensifier ses actions sur terrain, notamment dans les pays en développement. Elle s'engage à ne plus financer les industries pétrolières et celles de ses sous-produits après 2019.
Et puis, les aspects de la protection de l'environnement ont été pris en compte dans le nouveau projet de loi portant modification et complétant le code minier en RDC de 2012. Déclaration du président de la Commission Environnement et Ressources Naturelles de l'Assemblée nationale. Les députés Patrick Akwat a réagi à la dénonciation du réseau des ONG environnementales, a qui affirmé dans son communiqué publié le 7 décembre dernier que les principes relatifs à la préservation de l'environnement n'avaient pas été respectés dans le nouveau texte de loi. Patrick Akwat rassure que la Commission a tenu compte du fait que la RDC est signataire des engagements internationaux en la matière. On l'écoute au micro de Nounou Ngoy.
Nous venons de ratifier l'accord de Paris et étant donné que nous avons ratifié l'accord de Paris, la République démocratique du Congo est devenue redevable pour ce qui est de la situation climatique ou le développement durable. Alors il serait absurde que nous puissions aujourd'hui reviser le code minier et que nous ne puissions pas tenir compte du développement durable ou de la situation climatique. Eh bien, je tiens à vous dire ce jour que nous avons tenu compte de cela. Nous venons de mettre une contrainte à ce que les miniers puissent mener être assujetti à la taxe sur le développement durable, la taxe forestière et la taxe sur la pollution. Non seulement cela, Maintenant, quand une entreprise s'installe, il faudrait qu'il y ait une consultation avec la communauté locale. On a introduit la notion d'un cahier des charges. Nous avons aussi introduit la notion de la participation des personnes physiques de nationalité congolaise dans les permis d'exploitation au capital social et une taxe rémunératoire annuelle.
Actualité Afrique Monde.
En Afrique du Sud, plusieurs organisations de la diaspora ont défilé hier mardi à Pretoria pour protester contre l'esclavage des migrants en Libye. La centaine de manifestants a déposé un mémorandum auprès de la présidence et de l'ambassade de Libye, entre autres.
La diaspora.